entre Éphèseur à Saint-Louis. Je dois dire que le premier souvenir que j'ai, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à entrer chez M. Fessard, parce qu'il y avait à la Sorbonne des gens dont je ne prononcerai pas le nom, mais qui n'étaient pas du tout contents qu'un jeune type sortant de la rue d'Une aille meubler la maison Fessard. Si bien qu'on m'en a franchement physiquement empêché. Et finalement, un jour, j'ai décidé d'aller tout de même à Auteuil. Je me vois toujours au métro Michel-Ange Molitor. Je marchais, je ne savais pas trop où j'allais. J'allais finalement vers cet institut. Je trouve l'Institut Marais. Je m'assois, on me dit d'attendre. Il y avait Allard qui m'a reçu. Allard était déjà là, il m'a reçu. Et je m'aperçois que mon stylo était vide. Première chose que j'ai faite, Fessard n'était pas là, je ne le connaissais pas d'ailleurs, mais j'ai vu une bouteille d'encre et j'ai rempli mon stylo très vite pour que personne ne voie que j'étais en train de remplir mon stylo. Voilà. Nous avons très vite, je ne raconterai pas ma vie de départ à Marais, qui a été une vie agréable et difficile à la fois, bien entendu, sur le plan technique, sur le plan de tout. Et je voudrais passer en revue rapidement cette période qui va de 46 à 60, qui est à peu près la période, qui est même pas à peu près, mais qui est certainement la période que j'ai vécue à l'Institut Marais. Et moi, les collaborateurs que j'ai eus et les personnes qui m'ont un peu pris en main au départ. Le travail qui a été fait, j'ai été très vite associé au travail de Denis Fessard. Denis Fessard qui, à ce moment-là, à la fois s'occupait de l'équipement, car Denis Fessard, ne l'oublions pas, était à l'origine un ingénieur de physique-chimie, mais qui avait bien entendu des connaissances acquises déjà en biologie et qui était tout à fait désigné pour faire de l'électrophysiologie. Ça lui allait parfaitement. Et nous avons assez vite commencé à travailler ensemble. Nous avons vite commencé à travailler ensemble et les premiers travaux que Denise faisait, moi je voyais ça un peu de loin, étaient des travaux sur la torpille. Pas simplement la torpille pour les récepteurs cholinergiques, etc. Ça ne nous intéressait pas, c'était des trucs beaucoup trop compliqués pour nous. Et elle s'intéressait, je me suis intéressé avec elle, au problème des charges, des caractéristiques des décharges des torpilles. C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé et surtout, nous avons très vite cherché à, et c'est vraiment Denise qui a été à l'origine de cela, beaucoup plus que moi, chercher à effectuer des dérivations, ce que nous appelions à ce moment-là endocellulaires, c'est-à-dire intracellulaires. Très vite, on s'est intéressé aux pipettes, si j'ose dire, et aux pipettes remplies de KCl, et qui permettaient précisément de faire les premières études intracellulaires. Je crois que nous n'avons peut-être pas été les premiers, mais nous avons été presque les premiers. Voilà, c'est le titre. Donc, c'est le premier travail est sur la torpille, le torpedo, et je vous ai montré là, je vous montre là, je tâcherai de ne pas être la porte, Monsieur le Président, vous serez gentil de me rappeler à l'heure, parce que je n'ai pas noté. J'ai encore quelques temps. J'ai pris de vieilles images, bien sûr. Voici le lobe électrique de la torpille avec ses grandes cellules qui sont c'est le lobe de commande de l'organe électrique. Et ces grandes cellules étaient des objectifs merveilleux pour faire. Là, voilà une de ces cellules qui est de grande taille et ça a été au fond, ça commençait dès les années 50, 54 en réalité, vous voyez, C'est Denise qui a commencé à faire ses études et nous étions ensemble lorsque nous avons fait les premières intracellulaires dans ces cellules du lobe électrique de torpille. Et voilà, c'est l'extracellulaire et vous voyez la pénétration, le délai, puisque nous travaillons en continu. Par conséquent, nous avions le potentiel de repos, vous voyez la déviation entre l'extracellulaire et l'intracellulaire. C'était une réussite pour nous. Nous avions l'impression d'avoir fait quelque chose. C'était techniquement, je dois dire, moi je n'y croyais pas beaucoup. Grâce au dynamisme d'Alp Fessard, les choses ont marché assez vite. Et ensuite, attendez, je ne sais pas si j'en ai une autre. Non. Ensuite, nous avons dit, nous avons travaillé sur le chat. Pourquoi pas le chat? Le chat, je dois dire que un des responsables du travail sur le chat, c'est finalement Jean Scherrer. Jean Scherrer qui avait fait un séjour à Chicago, un peu comme vous, Monsieur le Président, je crois que c'était également au titre de l'Institut national d'hygiène. Scherrer avait fait un séjour à Chicago et il avait vu travailler sur le chat. Mais pourquoi pas nous aussi on peut travailler sur le chat. C'est ce que nous avons fait. Donc bien entendu, on a travaillé sur des chats anesthésiés, on avait les premiers appareils de contention type Horsley-Clark, et nous avons une chance moyenne, je dirais. Voilà le genre de publication que nous ne ferions certainement plus maintenant sur l'intracellulaire, les passages intracellulaires, voilà l'extracellulaire, voici l'intracellulaire. Une des idées était de montrer que voilà, c'est un potentiel évoqué par stimulation. Et vous avez là le fameux artefact dont on n'a pas beaucoup d'artefacts, on le voit un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les phases classiques du potentiel évoqué, la phase positive, surface négative, ceci est un peu oublié tout ça maintenant, eh bien, c'est pendant la phase positive que l'on voit décharger la cellule. C'est une grosse cellule, je ne dirais pas une cellule de Betz, mais enfin une grosse cellule du cortex moteur du chat. Bon, ça c'était on était contents, encore plus. On était contents. Et puis, les mois ont passé, et nous avons continué à faire des intracellulaires. Là, je ne fais évidemment qu'une courte excursion. Est arrivée une autre personne qui s'appelait Arlette Roujol, et qui a commencé à travailler avec moi à ce moment-là, et qui travaille encore avec moi, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. Nous avons réussi à travailler ensemble sans trop nous attraper. Ce qui est rare dans un couple. Et à ce moment-là, ma future femme, a travaillé sur le pigeon et elle faisait sa thèse de médecine, puisqu'elle est médecin. Elle faisait sa thèse de médecine et je lui ai dit, pourquoi ne feriez-vous pas, mademoiselle, un travail sur le cervelet du pigeon? Ce qu'elle a fait, et je l'ai aidé à faire de l'intracellulaire également. Voilà ces intracellulaires de pigeon, ce n'est pas non plus très glorieux. Mais l'image à laquelle nous tenons beaucoup est celle-ci. Voici un enregistrement extracellulaire, il n'y a rien de spécial à dire. Et puis voilà un enregistrement intracellulaire. Et cet enregistrement intracellulaire dans une cellule de Purkinje a quelque chose de spécial, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a décrit plus tard comme la décharge complexe. Autrement dit, nous avons été les premiers, sans le savoir, à démontrer l'existence dans les cellules de Purkinje de deux types de décharges, les décharges simples et les décharges complexes. Alors bien sûr, après, il y a eu Granit, il y a eu d'autres auteurs qui ont beaucoup mieux travaillé que nous, car nous savions faire, mais nous ne savions pas faire savoir. C'était la période où on n'était pas tellement pressé de publier, comme nous le sommes maintenant tous. Et bon, ça avait un peu un côté bricolo, mais quand on revient en arrière, on se dit qu'on aurait peut-être pu développer un peu plus là, et on serait allé certainement plus loin. Puisque tout le monde connaît, vous savez tous, l'énorme histoire qui s'est bâtie autour Les cellules de Purkinje, elles ont deux modalités de décharge, simple et complexe. Ensuite, nous avons un peu divergé, Denise et moi, un peu beaucoup même, puisque, mais pas complètement, puisque nous nous sommes finalement les uns et les autres intéressés à une problématique beaucoup plus fonctionnelle, qui était finalement, est-ce que véritablement les aires associatives, c'est-à-dire celles qui sont censées être muettes, est-ce que ces aires associatives ne sont pas elles aussi réceptrices de messages sensoriels? C'était la question que l'on posait. Et à ce moment-là, cette image est destinée simplement à vous montrer l'état des lieux vu par d'autres, l'autre étant Woolsey, qui était un ami, avec les aires primaires du chat, pardonnez de vous donner, de montrer des choses aussi banales, et en particulier un cortex associatif qui en principe ne sert à rien au point de vue de réception sensorielle. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées, puisque Alpessard et Arlette Rougel ont démarré l'histoire en montrant que dans le cortex associatif du chat, voici les ronds et points, on trouve des réponses somesthésiques. Ceci sont des réponses somesthésiques, simulation de la patte, simulation d'un membre, simulation d'une patte. Développement de réponses qui n'ont rien à voir avec les réponses primaires. Voici une réponse primaire. Et ces réponses qui sont longues et qui de longue durée, ces réponses-là sont dans des territoires qui n'ont rien à voir avec le territoire somesthésique, puisqu'il s'agissait d'un territoire somesthésique. Alors, ces deux dames ont dit, bon, ben voilà, nous décrivons des territoires, des réponses dans des territoires non primaires. Moi, il y avait un truc là-dedans. Le truc, c'était l'anesthésique. Alors ça a été je dirais à la fois un succès et un drame, il faut bien dire les choses comme elles sont, car cet anesthésique, c'était le chloralose. Le chloralose, par un mécanisme que nous ne connaissons pas encore actuellement, enfin je ne sache pas qu'on le sache, véritablement, cet anesthésique crée amplifie considérablement des projections qui existent, je vais vous le montrer dans un instant, mais les amplifie caricaturalement. Et cet article-là, ça m'a été encore confirmé tout récemment, ce matin même, cet article-là a été un des plus cités pendant longtemps. Bien que elles aient été, et nous aussi, puisque moi j'étais dans le même bateau sur la suite, je vais vous le montrer, nous avons tous été critiqués pour l'utilisation du chloralose. Terriblement critiqués. Les gens disaient, ce sont des animaux épileptiques, ça n'a rien à voir avec l'épilepsie, c'est totalement différent. Mais ce chloralose, évidemment, on disait, oh, pff, ça vaut rien, c'est du chloralose. Bon. En tout cas, nous avons, alors c'est avec mon camarade Bornstein, un psychiatre, qui avait envie de faire pas seulement de la psychiatrie, mais aussi un peu de neurophysiologie, que nous avons refait les manips, mais cette fois-ci sans chloralose. Alors là, voici une préparation, alors là, c'est la préparation qui m'a valu presque d'être tué dans un ascenseur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était des animaux paralysés, non anesthésiés, curarisés, non anesthésiés. En 68, beaucoup plus tard, il y a eu les antivivisectionnistes qui ont ressorti mes publications, et ça se passait dans l'ascenseur de l'ORTF, à la maison de la radio. Ils ont failli m'avoir ma peau, parce que j'avais fait ça. Que je ne ferai plus, je dois le dire, je fais amende honorable, je ne le ferai plus, travailler sur un animal non anesthésié, curarisé. Bien que je sois à peu près persuadé que ces animaux sont... je vais encore me faire tuer, inconscients. Ils n'ont probablement pas de douleur. Mais enfin, je ne le ferai plus. Toujours est-il que je l'ai fait, et que voilà ces réponses. C'était grâce à des... Voyez-vous, ces superpositions sur scope, pour être sûr. nous n'avions pas de moyenneur à ce moment-là. On travaillait de la façon la plus simple possible. Et voilà les réponses primaires. Les réponses primaires. Et voilà ces réponses associatives recueillies en ces points 1, 3, etc. Et vous voyez ces réponses qui sont tout à fait différentes des réponses primaires et qui montrent en tout cas ceci, c'est qu'il y a des projections sensorielles dans le cortex associatif. C'était ça le point important. Alors je ne sais pas ce que j'ai d'autre comme image dans le même ordre. Oui. Non. Nous avons continué à travailler avec Bornstein. J'ai continué dans le cortex associatif. Ensuite, il y a eu le cortex moteur, et c'est avec Imbert et aussi Asher que nous avons travaillé. Michel Imbert et moi, nous avons montré que dans le cortex moteur aussi, moteur, toujours chez le chat, nous avions des réponses au son et à la lumière, des cellules cette fois-ci. Nous avions de nouveau, nous étions retournés aux cellules, aux microélectrodes, mais cette fois-ci, elles étaient extracellulaires. Et ceci est vraiment chez un animal qui, je crois qu'il est sous chloralose. En tout cas, oui, c'est un animal sous chloralose profond. Je te mets une autre image. Oui, cette fois-ci, c'est pas sous chloralose. Cette fois-ci, c'est un animal paralysé, non anesthésié. Autrement dit, nous avions à peu près nous étions à peu près sûrs que nous avions des projections très largement réparties sur l'ensemble du cortex cérébral. C'était dans une certaine... Maintenant, ça a l'air banal. L'imagerie cérébrale, etc., beaucoup de données convergent vers ça. Mais à ce moment-là, nous étions très contents d'avoir vu cela. La suite, c'est avec un personnage qui était là ce matin, qui est encore là cet après-midi, bonjour, c'est Asher. Et Asher et moi, nous avons fait un peu la même chose, mais voici, c'est sous chloralose. Nous avions des décharges pyramidales. Nous avons pu montrer que non seulement l'influx arrive au cortex moteur, influx visuel, influx acoustique, mais aussi déclenche une volée réflexe dans le tractus pyramidal. Et vous avez là la décharge pyramidale. Je donne ça simplement, Philippe, vous ne m'en voudrez pas simplement d'être aussi peu disert sur le problème. Enfin, c'était pour montrer que nous avions vraiment des décharges dans la région, à partir du cortex moteur, sous l'influence des simulations cognitives. Ça donnait évidemment, ça donnait du cortex, ces expériences émanipes avec Asher, donnaient du cortex, c'est sous chloralose, donnaient du cortex une vision d'une espèce de supercentre réflexe, ce qui évidemment n'est pas le cas normalement. Nous schématisions à outrance, ça c'est clair. Et en profondeur, je passerai très vite pour montrer que nous avons les uns et les autres, aussi bien Denise et que nous, et Bornstein et moi, nous avons enregistré dans le thalamus, nous avons fait beaucoup de choses de ce genre. Je passerai vite sur ce que je considère comme, ce que nous considérons comme un progrès dans l'étude, c'est-à-dire les travaux sur le conditionnement opérant chez le chat, qui ont eu l'avantage de nous forcer à travailler sur l'animal chronique, c'est-à-dire l'animal implanté d'électrodes. Maintenant, encore une fois, tout cela paraît banal, mais dans ces années, je ne sais pas exactement quelles années, enfin dans ces années 56-58, ça n'était pas évident, et nous avons à ce moment-là implanté des animaux. Là, ceux-là ne sont pas implantés, implanter des animaux qui appuyaient sur des pédales et des choses de ce genre. Ça permettait en même temps d'enregistrer sur le cortex, et nous en avons fait pas mal. Je laisserai un autre chat sur lequel nous avons fait des refroidissements du cortex. Vous avez des refroidissements du cortex visuel, ce sont des choses de ce genre. Nous enregistrions en même temps l'activité du trapèze, l'activité corticale, et ainsi de suite. Seulement, nous n'étions pas seuls. Il y avait d'autres chercheurs fort distingués à ce moment-là. Nous naviguions dans les années 55-60, entre 50 et 60. Il y a eu au laboratoire de Marais véritablement des chercheurs d'une haute tenue, d'une haute volée. Nous avons eu un exposé ce matin de Clarac sur Ladislas Tautz, et je m'associe complètement à ce qui a été dit sur Tocq, qui était un homme qui nous était arrivé de Brno et qui est resté une première fois, dont je me suis un petit peu occupé parce qu'il était un peu en perdition à l'école normale. J'en profite pour raconter une petite histoire à propos de Tautz. La raison de l'arrivée de Tautz à Paris est la suivante. Le directeur, lorsque nous étions à l'école, à la rue d'Ulm, le directeur sous Pétain était Carcopino. Après la libération, Carcopino, que nous appelions le Carcal, bien entendu, a été foutu à la porte, et puis il a été remplacé par un monsieur Pauphilet. Or, Pauphilet avait été le représentant, le délégué scientifique à Prague, avant la guerre. Donc, Pauphilet était rempli d'admiration pour la Tchécoslovaquie, et la première chose qu'il a faite comme directeur de l'école a été de nommer ce qu'il appelait des élèves libres de l'école. Et on choisirait, bien entendu, le dessus du panier des élèves tchèques. Et le dessus du panier, ça a été Ladislas Tautz. Et c'est comme ça que Tocq est arrivé à Paris, avec dans ses bagages, la moitié de sa thèse sur les picotiles, qu'il a terminé à Paris. Seulement, manque de peau, un problème énorme. Les amplis continus, c'était une difficulté terrible. Il était à l'école normale où il n'y avait rien, et c'est Robert Lévy, le patron revenu de la clandestinité, qui m'a dit il faudrait s'occuper de ce garçon parce qu'il est embêté, il ne sait pas, il a des amplis, moi je ne sais pas, j'y connais rien. Alors j'en ai parlé à Denis Fessard, et c'est Denis Fessard qui l'a installé, qui lui a vraiment installé des amplis continus qui n'avaient pas trop de dérives, parce que les potentiels sur les picotiles sont des trucs qui durent très longtemps. Et donc, pour les avoir en plein, il fallait justement qu'il ait de bons amplis continus. Et c'est Denis qui s'en est occupé. Et c'est comme cela qu'il a terminé sa thèse. Il est reparti pour la Tchécoslovaquie, pour Brno. Et puis, après l'histoire du rideau de fer, il est revenu. Mais cette fois, il n'avait pas de sous, parce qu'il n'avait plus il n'était plus élève de l'école. Enfin, on s'est débrouillé. Fessard s'est débrouillé. Voilà, pour compléter. Alors, sur la rétine du pigeon, donc, nous avons eu le camarade Gallifreau. J'ai passé deux images, tu ne m'en veux pas, je suis allé trop vite. Non, mais je voulais simplement dire que Gallifreau nous a fait le plaisir de travailler avec nous, enfin, dans le groupe de Fessard, et puis il a essentiellement travaillé sur la rétine du pigeon. Vous avez failli voir l'image précédente. Peut-être que par là, je vais y arriver, voilà. Le fond d'œil du pigeon, il a travaillé sur les champs rouges, il a décrit le pain, etc. Il a revu le pain, etc. Et il a étudié véritablement, très correctement et très profondément, la rétine du pigeon. Alors, je reviens à l'image. Et puis, Gallifrey, à côté de Gallifrey, il y a eu aussi Zabot que je voudrais bien ne pas oublier non plus, parce que il a travaillé sur les récepteurs de la ligne latérale. Parce que Zabot nous est arrivé de Hongrie, en fait, de Budapest, je pense, oui. Il a passé par la Suisse, où il a fait énormément de travaux d'histologie. Il était un excellent histologiste. Il n'était pas un physiologiste, il était surtout histologiste. Mais il avait travaillé donc à Zurich. Ensuite, il est venu à Paris, il est entré au CNRS, enfin il a travaillé avec nous. Je dois dire, je lui suis infiniment reconnaissant parce qu'il m'a aidé à terminer ma thèse. Parce que c'est lui qui a réussi à faire véritablement tout ce travail de histologie que j'ai fait dans ma thèse, c'est grâce à lui. Et il a ensuite cherché sa voie. Il est allé à Gif, il a encore cherché sa voie, et finalement sa voie était les poissons électriques. pas tellement la torpille, mais il s'est spécialisé dans les autres poissons électriques, gymnotes, etc. Et j'ai une diapo pour rappeler ça. Oui, une diapo sur les différents types de... C'est très peu lisible. C'est pas tout à fait au point, mais je suis navré. Donc, nous avons toute une série de poissons électriques dont il a rappelé, dont il a très, très sérieusement étudié la structure, plus que peut-être que la physiologie, mais surtout la structure de tous ces poissons, le gymnote et d'autres. Parce qu'il n'y en a pas le gnatopnemus, il y en a vraiment un certain nombre. Voici encore une image du Asabo sur les récepteurs et sur les systèmes des charges électriques, surtout sur les récepteurs. Et la suite. La suite, elle n'existe pas sous forme d'image, mais elle existe sous forme de petites histoires. D'abord, ceux que j'ai oubliés. J'en ai oublié, bien sûr, beaucoup. J'ai oublié Brunner, qui est là. Là, il est là. Bonjour, Brunner. Rebonjour. J'ai oublié Yannick Brunner, qui a travaillé avec moi, qui m'a fait le plaisir de venir. Lui, il venait de Varsovie, de chez Konarski. C'est un peu lui qui, inconsciemment, dirais-je, m'a inspiré indirectement, m'a poussé vers l'animal chronique et l'animal dressé. Vous ne vous en doutez pas, Yannick, mais c'est un peu ça. Et puis, il y a eu Dussardier qui a travaillé avec nous. Dussardier, qui est à Marseille, ensuite, et qui a travaillé beaucoup avec nous. Oh, Dussardier, c'était difficile parce qu'il avait des moutons. Et surtout, les moutons, ça ne sent pas toujours très bon. Je dois dire que le petit laboratoire que j'occupais à Marais, les quelques pièces que j'occupais, j'en occupais 3 ou 4, je crois, tout sentait le mouton. Et c'est après toi, Gallifrey, qui est venu du Sardier. Oui, c'est ça, c'est dans ton labo, dans ton bureau. Et puis il y avait... Non, Payard, lui, il vous parlera de ce qu'il a fait. Lui, c'est autre chose. J'en oublie certainement encore qui ont travaillé avec nous à l'Institut Marais. C'était une ambiance qui... Bon, ça me, c'est très difficile d'en parler en détail parce que ça se sent... Je ne parle pas du bouton, mais ça se sent d'une façon plus générale. D'avoir une certaine bon, il n'y a pas que des amis, il y a des antipathies qui se créent, enfin comme dans tous les groupes humains. Je dois dire que ça a été un souvenir excellent. Bien sûr, quand je suis parti pour la faculté, pour Jussieu, ou ici, pour venir ici au-dessus, au 6e étage, où je me suis installé pendant 40 ans. Je me suis installé pendant 40 ans, presque. Et bon, ça a été tout à fait différent. Il y a eu des présents, des personnalités qui m'ont suivi, Hacher, Brunner, un Michel Imbert qui n'est pas là, et bien entendu mon épouse favorite. Et nous nous sommes tous installés ici, mais on avait plus de place. Mais ce n'était pas l'ambiance de l'Institut Marais. Alors je suis en train de chercher dans ma tête qui j'ai oublié, j'en ai oublié. Ce que je voulais dire surtout, c'est que ce n'est pas parce que j'ai quitté Marais que l'activité de Marais s'est arrêtée, de l'Institut Marais s'est arrêtée. Et je voudrais pour terminer faire un grand salut à Alfred Fessard qui m'a toujours suivi, et même lorsque j'étais ici. Il me suivait, il m'a aidé beaucoup, il m'a aidé. Et puis Denise, qui a suivi comme ça son chemin avec des études fort excellentes, en particulier en microélectrode, avec des élèves qui sont nombreux ici. Je vois comme ça au hasard Fégé, je vois des visages souvent auxquels je ne peux plus donner de nom. parce que je suis un peu alzheimérien, mais ou prosopagnosique, si vous voulez, plutôt. Mais en tout cas, je dois dire que Denis Fessard a continué vraiment jusqu'au bout. Et quand le fameux Institut Marais a été, je ne dis pas mis en l'air, mais plutôt fichu par terre, Fessard avait pris sa retraite. Sa retraite a été plutôt modeste, si je puis dire. Denise n'était pas à la retraite à ce moment-là, et elle s'est installée dans un laboratoire qui existe toujours, mais qui n'est plus le sien, bien sûr. Et Denise est restée jusqu'à sa retraite, ici, dans les lieux. Elle a fait partie de l'Institut des neurosciences, qui, à ce moment-là, que je dirigeais. Autrement dit, j'ai été son patron, administrativement, bien sûr. Mais c'était une période, voilà, l'histoire de... Ce jour est terminé en disant que l'œuvre de Fessard, que Fessard a créée autour de lui, avec sa femme, et peut-être avec nous, les anciens, toi, Payard, moi-même, et quelques autres, et Tautz. Mais Tautz est arrivé un peu plus tard. Et nous deux, nous étions les plus précoces. Nous avons créé une antidote à une école de physiologie qui n'avait d'école de physiologie que de nom, qui était dans ces murs, qui était bien là, qui était à la Sorbonne avant, et qui était celle de Lapic et de ses successeurs, auxquels je ne rends absolument pas hommage. Pas du tout. Je pense que vous l'aurez tous deviné. Je pense que ça, j'ai assisté au cours de ma vie, qui est longue, j'ai assisté véritablement à un complet redressement. Seulement, manque de chance, la physiologie française était déjà mal vue par l'étranger, par la communauté internationale. La première raison, c'était le curare avec Claude Bernard. L'utilisation du curare a déjà été condamnée considérablement la France, la physiologie française, pas pour sa cruauté, si je puis dire. Je parle de Claude Bernard, mais il y a bien d'autres après. Et puis, la deuxième chose, ça a été l'achronaxie, qui ne mérite pas plus qu'on en parle. Mais il est amusant de voir que nous avons connu l'un et l'autre Rushton, qui était un de ceux qui précisément ont véritablement démontré que toutes les histoires racontées par Lapic et les hypothèses qu'il avait formulées étaient fausses et n'étaient pas justifiantes. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire. J'ai certainement oublié surtout des noms, des gens qui diront, tiens, il ne m'a pas cité, oh là là. Mais ne m'en veuillez pas, c'est véritablement une... J'ai essayé, j'ai bafouillé. Je vois là-bas Marie-Jo Besson, dont je n'ai pas parlé. Bonjour. Bon, puis et toi, je n'ai pas parlé. Oui. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Bustos. C'est un peu décousu, mais très touché.
Oh, je l'ai voulu décousu.
Monsieur le Président, je vais te poser une question.
Oui ?
Est-ce que j'ai le droit de prendre la parole ? Buzer, moi j'ai été très intéressé par ce que tu as raconté sur le chloralose. Bon, la première chose où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que le chloralose, c'est quand même convulsivant. Ça ne fait pas des vraies convulsions, mais si tu veux provoquer une absence épileptique chez l'homme, tu lui donnes du chloralose. Donc, ça favorise certaines décharges de type épileptique. Mais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'avec Gaston, on travaillait sur le métrazole. Vous avez travaillé avec le chloralose. Et nous avons trouvé, les uns et les autres, non seulement des réponses spécifiques, mais des réponses dans des territoires non spécifiques, tu l'as très bien dit. Il y a ici quelqu'un comme M. Hacher, dont certains de ses articles l'ont fait souffrir toute sa vie. étant donné qu'il considérait que sous chloralose, on trouvait n'importe quoi. C'est vrai qu'on trouvait n'importe quoi. Mais moi, j'ai eu les mêmes problèmes que vous tous. Cependant, si tu regardes aujourd'hui, avec un œil critique, ce que nos amis décrivent avec l'IRM fonctionnel, c'est exactement les territoires où on trouvait des décharges sous chloralose ou sous métrazole. Donc ils sont en train de redécouvrir exactement dans le même territoire. Si ce n'est que ce n'était pas chez le chat, chez le singe j'ai trouvé la même chose, et chez l'homme on trouvait la même chose. Donc on retrouve exactement les mêmes propagations que ce qu'on avait trouvé nous en utilisant quelque chose qui favorisait la propagation en dehors. Mais en multipliant, en associant, si tu veux, des réponses comme ils font avec les nouvelles techniques, ils arrivent exactement au même résultat. Et moi, je suis passionné par ce qu'ils trouvent, parce que vraiment, je me dis, il faudrait qu'ils regardent les articles d'Acher, de Buzer, de Madame Fessa, et ils trouveraient exactement la même chose.
Simplement, je voudrais donner une réponse partielle à Naquet. Je m'oppose pas à ce que tu dis à propos du métrazole. Ce n'est pas n'importe quelle dose de chloralose qui crée des choses à peu près stables. Parce que si tu donnes un peu de chloralose, tu as n'importe quoi n'importe où. Tandis que si tu doses, on finissait par le savoir puisqu'on faisait que ça à un moment donné. Alors évidemment, on savait la dose qu'il fallait donner, et à ce moment-là, c'était extrêmement sharp, c'est localisé, c'est pas du tout sur l'ensemble. Alors, je pense que nous avons tous les deux raison dans cette histoire. Moi, je dis, ce n'est pas de l'épilepsie au sens traditionnel, pas plus que tu seras bien de mon avis. C'est quelque chose de différent dont nous n'avons pas. Acher me contredira peut-être parce qu'il aime bien ça. Mais je ne sais pas si la clé de l'action du chloralose est donnée. Je n'en sais rien. Je ne sais pas.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça.
Oui, non, mais j'ai bien compris. J'entends bien.
On est en train de rejeunir du chloralose.
Oui, mais nous avons. Je dirais ici, il n'y a jamais eu un gramme de chloralose dans cette maison avec moi. Pas question.
Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que moi, j'ai eu la même chose avec mes singes, selon qu'ils étaient très épileptiques ou peu épileptiques.
Oui.
On avait des réponses qui étaient plus ou moins altitudes, mais finalement, quand elles étaient minimales, elles étaient dans les territoires associatifs.
D'accord.
Il y avait des propagations au niveau du cervelé, que l'on décrit chez l'homme comme étant
quelque chose. Que nous n'avons pas décrit. D'accord.
Alors que vous les aviez tout le ralo, alors qu'on les avait dans le territoire.
Oui.
On décrit que ça va dans l'œuf frontal, on décrit que ça va dans l'œuf associatif. Aujourd'hui, on retrouve exactement, en utilisant une technique qui est aussi critiquable que le chloralose, étant donné que ce n'est pas l'activité nerveuse qu'il voit, mais c'est les vaisseaux sanguins. Donc, il voit l'augmentation des lignes circulatoires dans des territoires où nous, on trouvait des choses.
Oui, d'accord.
Et je trouve que c'est pas par défaut pour ce que nous avons fait, ce que vous avez fait, ce qu'a fait la chair. C'est pour dire qu'au fond, c'est très intéressant de voir que grâce à cette technique, moi quand je relis vos articles avec la chair, toi, etc., Humbert, merde, c'est ce qu'ils sont en train de décrire.
Comme tu dis.
Mais je crois que j'ai l'autorisation de dire juste un mot parce que il est vrai qu'il y a pas mal d'années, entre autres quand je suis arrivée à l'Institut Marais pour travailler avec Mme Fessard, on ne publiait pas aussi vite, on n'était pas poussé à publier comme c'était auparavant, si bien que les quelques malheureux articles que j'ai publiés à ce moment-là sont sans doute passés inaperçus. Mais Mme Fessard m'avait donné comme sujet de thèse d'étudier les réponses évoquées dans les différents stades de sommeil, puisqu'il se trouvait que j'avais fait du sommeil chez l'homme avec Colette Dreyfus, M. Pisgol à la pitié. Et j'ai retrouvé dans ces mêmes, toutes ces régions qui étaient très suspicieuses, qui étaient devenues très suspectes à cause du chloralose, les mêmes types de réponses dans les différentes régions dont j'ai oublié le nom maintenant, et qui étaient, dont les réponses étaient modifiées par les différents stades de sommeil, mais qui étaient obtenues sans aucune anesthésie. Donc je crois savoir que Mme Fessard avait été très heureuse de ces résultats, puisque cela démontrait que finalement, toutes ces régions corticales et même thalamiques étaient aussi, recevaient également des messages sensoriels.
Oui, c'était ça l'idée fondamentale qui nous intéressait. Gisèle, vous avez tout à fait raison. Que je n'ai pas, je ne vous ai pas cité. Mais non, mais je sais très bien. De même que Mme de Navitz-Aubier, que je n'ai pas cité. Enfin bon, et d'autres aussi encore. Mathieu.
Relancer la fameuse controverse au Claralo. Bon, il faut quand même savoir d'abord que tous les expériences de l'époque.
Attendez, Jean, je ne sais pas. Non, je ne sais pas où il est, le micro. Ah oui. Désolé, François.
Bon, c'est toujours au sujet de cette controverse. Il faut d'abord rappeler que toutes les études sur les potentiels évoqués qui avaient été faites par nos amis et collègues anglo-saxons étaient faites sous Nabutal, etc., qui effectivement est un anesthésique qui bloque un certain nombre de voies. Et donc, c'était une autre réalité. Donc, l'anesthésie, de toute façon. Alors, je voudrais simplement dire que avec Michel Mulders, qui avait été à Pise, donc qui s'était familiarisé avec les préparations, cerveaux isolés, etc., et aussi les animaux thalamiques, donc on trouve au niveau thalamique dans le centre médian des réponses aussi grandes que sous chloralo. Donc, comme si quand on supprime l'inhibition corticale, donc ça c'est sans chloralo, l'amplitude est vraiment maximale. Enfin, c'est juste pour argumenter,
oui, non, mais ça,
dans le même sens que...
Vous avez raison.
Il est très possible que c'est un système d'alerte qui permet de détecter des signaux nouveaux, puisque dès qu'on répète, la réponse disparaît.
Ça disparaît, oui.
Tandis que pour les réponses primaires, au contraire, elles se maintiennent à des fréquences élevées. Oui. Donc ça peut être un système d'alerte qui est exagéré sous chloralose, mais qui existe effectivement de façon...
Disons que c'est un peu... c'est important ce que vous dites. C'est un peu une forme de physiologie, je dis ça pour les jeunes qui sont ici... C'est un peu une sorte d'électrophysiologie qui n'est plus très tellement utilisée. Ce sont des problèmes qui paraissent évidents. Maintenant, quand on dit qu'il y a des projections sur les aires associatives, c'est évident. Seulement, il y a 50 ans, il y a un demi-siècle, c'était pas tout à fait ça.
J'ai deux petites questions. Une qui est... Il semblerait que finalement autour de Marais, ce ne soit pas du tout développé, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler la neurochimie ou ce que Jean Scherrer appelait la neurophysiologie humide. Est-ce qu'il y a des raisons historiques? Est-ce que c'est simplement un problème de calendrier? Non, mais il a été envoyé, mais
qu'est-ce que vous voulez...
Ma question n'est pas polémique, je pose une question sur les... Si je pouvais terminer ma question... Ça ne peut être ni faux ni vrai, je n'ai pas fini de poser ma question.
Vous avez fini, Jean ?
Non, j'avais l'impression quand même que, même s'il y avait de l'idée dans l'air, le développement ensuite s'est fait plutôt, et en particulier Marie-Jo, tu en as été un des acteurs, dans d'autres lieux. Est-ce que... D'accord.
Et c'est
M. Fessard
qui l'a
intégré
dans
son travail.
Donc finalement, c'est-à-dire Alfred Fessard avait déjà l'idée de la neurochimie, mais elle n'a pas pu s'exercer dans l'Institut Marais, c'est ça. Madame Fessard avait dit... Mais elle n'a pas pu s'exercer dans les lieux de l'Institut Marais, c'est
alors
ça
si
l'idée.
Alors, si vous permettez que je dise un mot, là, nous n'avions pas les compétences pour cela. On ne s'improvise pas neurochimiste.
Mais on ne s'improvise pas électrophysiologiste non plus. Alors, quand même, se sont réunis un groupe d'électrophysiologistes.
Nous étions des électrophysiologistes. C'était ça notre but.
D'accord.
Nous ne voulions. Et nous avons. Ce que nous avons fait, c'est de. Ça, c'est plutôt moi, beaucoup plus que Denise. Moi, j'ai divergé avec. Plus tard, avec ma femme, nous sommes orientés vers le comportement, parce que c'est ça qui nous intéressait. C'était l'enregistrement sur l'animal chronique, et nous nous fichions un petit peu des potentiels évoqués chez l'aigu. Pour moi, l'animal aigu n'est pas un animal. C'est ma conviction personnelle. C'est n'importe quoi, c'est un bout de bidoche. Pour moi, c'est tout. Bon, c'est méchant ce que je dis là, mais enfin, c'est comme ça. Et nous avons voulu travailler sur l'animal chronique. Et c'est ce que nous avons fait pendant énormément de temps. Il n'y a pas eu que ça chez moi là-haut, mais enfin, il y a tout de même eu essentiellement ça. Maintenant, cela dit, je répète qu'on ne s'improvise pas neurochimiste. Et je pense que non, nous n'avons pas... Nous savions faire des choses, mais n'allions pas en faire d'autres que nous ne savions pas faire. Et Marie-Jo vous l'a très
donc,
bien.
Donc l'idée était là et elle s'est développée ailleurs.
Elle était là, oui, mais enfin, la problématique ne s'est pas non plus imposée.
C'est développé sous la houlette des Fessards, mais pas dans l'Institut Alfred Marie.
Non, il n'y avait pas, et puis il n'y avait pas, c'était pas dans l'air du temps non plus.
Je ne pensais pas que ma question déclencherait autant de polémiques. Elle n'avait pas ce but. Donc j'en ai une deuxième qui sera peut-être aussi polémique. C'est, on voit bien que l'essaimage qui a eu lieu à partir de l'Institut Marais, dans toute une série de directions, on a l'impression que le retour, ou si tant est qu'il y en ait eu un, là encore je pars sous le contrôle de ceux qui étaient, vers la médecine et vers la neurophysiologie médicale a été, je dirais, peu important. En tout cas à Paris.
Il y a peut-être des raisons structurelles. Je pense que les médecins sont mieux placés que moi pour en parler, car je ne le suis pas j'avais décidé après la guerre de faire la médecine, après l'agrégation. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Et je le regretterai encore toujours, jusqu'à la fin. Mais enfin, c'est comme ça. Mais nous avons eu tout de même, Denise a-t-elle eu davantage de contact avec un certain milieu, a-t-elle formé des médecins? Moi, j'en ai pas vraiment formé beaucoup. Non.
Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne se sont pas réinsérés dans l'appareil institutionnel médicale. C'est ça que je veux dire.
Parce qu'il y a tout de même, il y a en France tout de même, je pense que là, je ne vais choquer personne. Il y a une fracture très grande entre les médecins et les non-médecins. Il y avait trois écoles quand j'étais gamin en neurophysiologie, c'est-à-dire dans les années 47, 8, 9, 10, enfin 50. Il y avait trois entités qui ne pouvaient pas se voir. C'était les médecins, même la physiologie médicale, la physiologie non-médicale et les psychologues. Ça faisait trois. Et chacun regardait les deux autres en chien de faïence. On m'a confié le DEA de neurosciences, mon premier souci a été de faire des cours par les trois. J'ai eu Signoret, j'ai eu nous, ici, et j'ai eu des psychologues. Donc j'ai pu réunir, mais c'était pratiquement la première fois. Voilà, ma réponse.
Parle tout le temps, mais je vais juste ajouter un mot. Mariani, moi, quand j'ai travaillé un peu à l'Institut Marais, d'abord j'étais médecin, quand j'ai travaillé à l'Institut Marais, c'était dans les années 62-63, où je venais toutes les semaines, Monsieur Glowinski avait été envoyé par Madame Fessard aux États-Unis pour apprendre la neurochimie. À son retour en France, il a été installé par Madame Fessard, chez son mari, au Collège de France, parce qu'il n'y avait pas de place. Et c'est lui qui a formé tous les neurochimistes français. Donc c'était... Alors ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse au sujet de la médecine... Au sujet de la médecine, il ne faut pas oublier que Madame Fessard a énormément... Allez, il n'écoute pas. A énormément collaboré avec les médecins, notamment avec l'école de Guillot, où pendant des années ils ont travaillé ensemble. Ce n'est qu'après après le départ à la retraite de M. Fessard et ce qui s'est passé à Roland-Garros, là, que Mme Fessard a essayé d'aller s'installer ailleurs, donc chez Guillot, et là il y a eu des problèmes d'adaptation les uns aux autres, et qu'elle a arrêté ce travail qu'elle menait tout le temps, moi, quand j'allais à...
Oui, j'allais le dire.
Si vous n'avez pas le micro, levez-vous, parlez plus fort.
Les gens comme moi, ou Nicolas
la même génération, on a eu le même comportement, c'est-à-dire qu'on est sorti du système médical, à tort ou à raison, j'en sais rien. Donc, ce que je voulais dire, c'était que l'influence positive de l'Institut Marais ne s'est pas exercée jusqu'à faire en sorte que ceux qui tenaient les structures des sciences fondamentales en neurosciences, en neurophysiologie, aient pu développer dans le cadre de la médecine une école où plus tard, des jeunes médecins avaient envie de rester. Enfin, c'est une pas, question peut-être polémique.
C'est pas tout à fait. Oh, je crois que c'est un peu plus compliqué, Mariani. De toute manière, ce que me rappelait notre président, car je l'avais oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. J'ai travaillé 25 ans, ou plus de 25 ans, et je travaille encore avec un groupe neurochirurgical à Sainte-Anne.
Ça, je sais.
Donc, de ce côté-là. Mais en ce qui concerne les retours, si vous voulez, ou l'essaimage, pour parler autrement, l'essaimage de l'école du côté médical, il y a tout de même eu Scherrer. Il y a tout de même eu Scherrer, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi.
Tant mieux, c'était la question avait pour but de le savoir.
Mais c'est vrai que ce n'a pas été peut-être, pas tellement directement, mais indirectement. Il y a tout de même eu, dans le domaine de la douleur, il y a tout de même eu. Hein, il y a oui. Bornstein dans un sens, et qui travaillait avec moi, qui était psychiatre. Et il y a eu, et dans le domaine de la douleur, nous venons de perdre, comment s'appelle-t-il
François Bourreau.
Oui, c'est ça.
Qui a été quand même, oui.
Le fils de mon confrère, oui, Bourreau.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, moi aussi, étant de formation médicale, j'ai eu les mêmes angoisses que vous avez pu avoir. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que je pense que, comme disait M. Buzer, les structures françaises n'ont pas facilité l'arrivée, le développement de la recherche clinique, en fait, il faut dire les choses comme elles sont, et je pense, continue à ne pas les favoriser. Mais néanmoins, je pense qu'aussi, pour continuer, c'est vrai qu'on a, moi, et finalement, j'ai fini par rester complètement chercheur, tout en ayant toujours certaines orientations plus proches de la clinique, et c'est pour ça que vous faisiez allusion à la douleur. Il faut quand même pas oublier que cette unité qui est partie de l'Institut Marais, parce qu'il fallait partir, de toute façon, puisque ça allait se retrouver sous les ruines, et a quand même, la plupart de ces gens qui ont formé avec Jean Marie Besson, l'unité 161, qui maintenant n'existe plus non plus, mais enfin bon, c'est l'évolution normale, je pense, des choses, a quand même été formée à l'Institut Marais, avec tous les inconvénients qu'il y a pu y avoir. On a tous eu des problèmes de carrière, puisqu'on parle toujours de carrière, ça n'a pas toujours été facile. Et finalement, on a formé cette unité qui a tenu le coup quand même un certain nombre d'années. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a reçu beaucoup de DEA, des neurologues, des rhumatologues, des anesthésistes, qui ont fait leur DEA avec nous, et qui maintenant sont dans les consultations de traitement de la douleur dans les différents coins de Paris ou de France.
Vous avez tout à fait raison. La formation, former des gens, et ici ça a continué. Alors je voudrais pour terminer, jouer la transition, parce que ça a suffi, la discussion. Je voudrais dire qu'il y a, à propos de relations avec la médecine, il y a un certain papier qui est devenu classique, d'un dénommé Paillard, d'un dénommé Bloch, et d'un dénommé Banco, qui était, Banco était un clinicien épileptologue que certains d'entre vous ont connu, et que tous regrettent, eh bien, c'est un papier où il y avait une collaboration entre médecins et non-médecins. Et le pire, c'était entre psychologues et médecins. Voilà.
Écoutez, je me réjouis beaucoup de cette discussion, et je remercie beaucoup Buzer de nous avoir fait vivre, sentir tout cela. C'est très très important et c'est très sympathique de voir l'atmosphère étendue dans laquelle ça se passe. Merci infiniment.
Merci Monsieur le Président.
Eh bien, je donne la parole maintenant à Monsieur Paillard, les recherches sur l'homme à l'Institut Marais.
Je voudrais d'abord m'excuser de préférer cette présentation assis, étant donné que je reviens du Canada et dans des conditions un peu cataclysmiques, de telle sorte que je ne suis pas en état, je crois, de tenir 45 minutes debout. Enfin, j'espère aller jusqu'au bout de mon exposé sans trop de problèmes. Ah, il est là. Bon, très bien. Bon, alors, comme vous allez le voir très rapidement, la tonalité de ce que je vais vous présenter présente un contraste saisissant avec tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Et ceci témoigne, je crois, de l'extraordinaire ouverture d'esprit d'Alfred Fessard, qui a qui a pu, dans cet institut Marais, installer des recherches dont il m'a chargé, mais qui reflète très précisément tout ce qu'avait été sa jeunesse, tout ce qu'avaient été ses aspirations initiales, et qui continuait dans ses collaborations avec Henri Pierron en particulier, une espèce de dette vis-à-vis de son maître, avec lequel il a travaillé 24 ans, qui a fait toute sa carrière en quelque sorte, dès le départ, et lui a donné les moyens de travailler, et qui ensuite a créé cette chaire de neurophysiologie générale. Sa leçon inaugurale, on verra combien Fessard a beaucoup insisté sur la dette qu'il avait vis-à-vis d'Henri Pierron. Donc ceci a marqué très certainement un aspect des convictions de Fessard vis-à-vis de ce qu'il appelait une neurophysiologie intrinsèque qui s'intéresse aux mécanismes isolés que l'on peut aller étudier dans la machine nerveuse et une neurophysiologie extrinsèque qui s'occupe de la finalité fonctionnelle de ce que font ces mécanismes, et persuadé, comme l'a toujours été Pierron, qui vis-à-vis de Bourenquéret, cette psychologie scientifique, envisageait de la construire sur des données biologiques utiles finalement à la compréhension d'un comportement intégré. Et cette notion d'intégration du comportement était déjà présente chez Marais, hein, dans laquelle il disait l'origine du mouvement, c'est-à-dire l'acte musculaire et la fonction nerveuse, était naguère encore la partie la plus mystérieuse de la biologie. Ce sera bientôt la mieux connue. L'école allemande a la plus grande part dans ce progrès, c'est elle qui l'a montré la première, que la biologie pouvait dans ses recherches atteindre à cette précision admirable qui ne semblait qu'appartenir aux sciences biologiques. Et ceci, c'est de 1867. Eh bien, nous allons voir que tout le début de la carrière d'Alfred Fessard a été précisément influencé par cette neurophysiologie allemande, cette électrophysiologie allemande que déjà impressionnait Jules Barret par la précision qu'elle apportait dans l'étude des réactions nerveuses. Et Fessard a très bien décrit d'ailleurs dans sa leçon inaugurale ce qu'était cette approche de l'électrophysiologie, en somme, allait réaliser dans l'étude du système nerveux ce que la microscopie avait réalisé dans l'étude des structures. La dynamique du temps, en quelque sorte, pouvait devenir accessible par ces manifestations électrophysiologiques de la machine. Et là, on avait effectivement un outil incomparable pour entrer dans la dynamique temporelle des activités nerveuses. Avec en plus ce souci de voir activité nerveuse finalisée vers des aspects comportementaux ayant une signification pour la motivation de l'organisme. Voilà. Alors on va trouver, je crois, un exposé qui a sans doute été peu connu d'Alfred Fessard au moment où nous avions organisé avec Jean Massion, dans les années 1973, un symposium, un des premiers symposiums que nous organisions à Marseille sur le contrôle du mouvement, et qui a d'ailleurs eu une audience internationale assez extraordinaire, et où Fessard, naturellement, était invité à donner la leçon inaugurale. Et dans cette leçon inaugurale, il s'est exprimé sur toute sa jeunesse, tout ce qu'il avait appris de l'électrophysiologie allemande. Et en effet, la notion de programme qui était au centre finalement de ce symposium, il disait ce mot qui à l'ère de l'ordinateur, pour les rues pour ainsi dire, n'était pas utilisé par les anciens neurophysiologistes, et il semble que la notion qu'il représente ait eu du mal à se dégager clairement et à se matérialiser en termes physiologiques. J'avais eu moi-même la révélation de son importance en lisant les articles de deux précurseurs allemands, Warholder et Altenburger, parus dans les Flügers Archives en 1925, au temps où je commençais à pratiquer l'électromyographie, et bientôt suivi d'un livre intitulé « Le willkürliche Haltung und Bewegung »,« La posture et le mouvement volontaire ». J'avais été frappé par l'importance que ces auteurs donnaient à l'idée que tout mouvement volontaire est caractérisé par le fait qu'il est précédé d'un projet. D'un projet, ou le Bewegungsentwurf de Warholder. Autrement dit, d'un programme, comme nous disons aujourd'hui, préparé dans le système nerveux central. Et ça a été une idée vraiment centrale dans tout ce que, ensuite, les travaux que m'a confié Fessard. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image de but? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bébé Gumsendorf? Voilà les bonnes questions qu'il faut poser à un système nerveux intégré et qu'on n'aborde pas en isolant les parties du système. Et voilà le genre de problème qui effectivement intéresse aussi les psychologues, mais qui caractérise le type d'approche. D'approche qu'on peut appeler aujourd'hui « behavioral neuroscience », qui sont en train de prendre une ampleur assez considérable dans ce domaine. Voilà le Kurt Wacholder, ce physiologiste qui a été un pionnier dans l'analyse de ce mouvement volontaire, et qui en particulier la coordination. On a eu à Lourmarin en 2004, ce temps de Brune nous avait réunis pour parler des neurosciences marseillaises justement, un excellent exposé de Mario Wiesenhunger qui nous a rappelé effectivement tout ce qu'avait été la contribution allemande dans cet aspect de l'électrophysiologie. Voilà ce que Fessard disait, le travail de ses précurseurs me frappa tellement que je suis redevable de mon premier article de quelque importance, le mouvement volontaire d'après Wacholder. 20 ans plus tard, je ne doute pas que ce soit son souvenir qui m'ait incité à orienter dans une direction analogue certaines des recherches de Jacques Bayard, jeune chercheur venu travailler dans mon laboratoire. Là, je ne vais pas raconter ce qu'avait été mon premier contact dans ce laboratoire où Fessard m'avait convoqué, où je me suis trouvé, il m'a en fait entrer dans une pièce sombre où crépitaient des choses dont je ne savais pas très bien ce que ça pouvait signifier, et où il m'a expliqué qu'ils enregistraient, il y avait Tournet, qui travaillait à ce moment-là avec Fessard sur les synergies dont je vais parler tout à l'heure. Tournet était bardé d'aiguilles plantées dans les muscles de l'avant-bras, ça crépitait dans la pièce sombre. Il y avait un oscillographe cathodique où on voyait les potentiels d'action défiler, et Fessard était avec ses oscillateurs de Dubois-Raymond en train d'essayer de maintenir la réflexion du miroir sur un vieil appareil photographique de Marais. Enfin, c'était assez extraordinaire. Je dois dire que ça a été pour moi une vocation. J'ai dit, je deviendrai chercheur. Tellement surtout qu'avec l'humour pétillant de Tournet, qu'on a continué d'apprécier d'ailleurs dans tout le reste de notre collaboration, c'était un spectacle extraordinaire. Alors voilà le mouvement volontaire de Fessard. Il a consacré 69 pages à ce moment-là à décrire tout ce qu'était l'enregistrement des mouvements, les courbes, les discussions, les méthodes électromyographiques, l'analyse du mouvement volontaire par la méthode électromyographique. Il est clair que c'était cela son champ d'intérêt principal, et il est resté très longtemps jusqu'à ce qu'il tiennent compte finalement des progrès des techniques électrophysiologiques qui lui ont permis ensuite d'avancer dans les amplificateurs, dans le oscillographe cathodique, on en a parlé déjà, et qui vont devenir pour lui un outil assez extraordinaire pour avancer dans les études plus fines qu'il fera par la suite. Alors ce que je voudrais dire dans la manière dont Fessard a orienté mes propres travaux, je crois qu'il faut vraiment tenir compte de ce qu'ont été ces rapports entre Fessard et Piron, puisque Fessard le rappelle dans sa leçon inaugurale, il a passé pratiquement 20 ans au voisinage de Piron, qui a vraiment créé sa carrière de chercheur et soutenu financièrement par des créations diverses. Tout le laboratoire avec Auger était installé au Collège de France, etc. Il faut rappeler aussi, peut-être ça a une influence, que Fessard a épousé la première collaboratrice de Piron, qui était Baron, c'est ça, et qui était psychologue. Donc il a eu vraiment toute une période de bain psychophysiologique, si je puis dire, qui a vraiment influencé son esprit. Donc quand l'Institut Marais s'est créé, après le voyage dont on a rappelé de Bugnard et Fessard aux États-Unis, que vous y avez été envoyé en mission, je pense, par le CNRS, c'est sur l'apport de ces données de ce voyage qu'a été créé, finalement, qu'a été envisagée la création d'un institut qui, en France, développerait ces méthodes d'une manière beaucoup plus avancée qu'elle ne l'avait été jusque-là. Et c'est bien évident que l'Institut Marais, dans son esprit de départ, était orienté vers la microphysiologie. Et alors, je pense qu'il y a eu quelques difficultés pour maintenir dans ce temple de la microphysiologie des recherches du type de celles que je vais vous présenter et que Fessard m'engageait dans la direction pironesque, si je puis dire, et qui n'avait pas le prestige, finalement, de toutes les études faites sur le microcellulaire, etc. Ce qui m'a personnellement donné pas mal de soucis au CNRS, où j'ai été engagé dans une commission de physiologie pour lesquelles les programmes de professeur Nozéfer n'avaient pas du tout le prestige des recherches qui se faisaient par ailleurs à l'Institut Arrêt. C'est pourquoi j'ai mis à peu près 8 ou 9 ans, je crois, à devenir chargé de recherche. Mais enfin, bon. Alors, on peut dire en somme que tant dans l'ordre chronologique que dans l'ordre spatial, c'est que l'évolution microphysiologique qui a pour une part importante marqué la neurophysiologie moderne, ou tout au moins la neurophysiologie que j'appelle intrinsèque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et Fessard soulignera que cette évolution peut d'une certaine manière se comparer à celle qu'a connue la physique de la matière. Mais il précise aussi que, s'agissant des organisations vivantes, c'est pas de la matière, comme la physique, si elle peut certainement contribuer à nous aider à de mieux en mieux comprendre comment le travail le système nerveux, elle risque peut-être aussi de nous faire oublier en vue de quoi il travaille. Et c'est bien sûr la mission qu'il m'a confiée. Et toutes les recherches que vous allez voir sont des recherches qui paraissent d'une banalité effrayante par les instruments à mettre en œuvre, qui n'avaient rien à voir avec la sophistication de l'électrophysiologie utilisée par ailleurs, mais qui posaient des bonnes questions. Et les bonnes questions qui ensuite interpellaient les recherches dans le système nerveux sur la nature des problèmes qu'on doit se poser. Je vais évoquer tout à l'heure l'un d'entre eux. Et il disait encore, ces relations que l'on appelle psychophysiologiques intéressent de deux façons le neurophysiologiste, non seulement parce qu'elles lui posent de nouveaux problèmes des mécanismes nerveux, mais aussi parce qu'elles lui apportent de nouvelles possibilités d'approche expérimentale. De nouveaux modes de fonctionnement peuvent ainsi être découverts. Alors, je voudrais dire que lorsque Fessard me fit recruter au CNRS, avec des programmes dont nous allons parler, il y avait en fait une trilogie que vous avez sous les yeux, celle de Piron d'un côté et d'Auguste Tournet de l'autre, avec leurs antécédents les uns et les autres, et puis Fessard qui effectivement, dans sa collaboration avec ces deux hommes, essayait de réaliser le programme dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais vous raconter ce qu'ont été les étapes, finalement, de ces recherches sur l'homme sur lesquelles Fessard m'a engagé. Alors, la première, c'est absolument ahurissant, et je pense que ça a dû troubler beaucoup les autres membres de l'Institut Marais de me voir engagé sur un problème que me posait Fessard, à savoir, si on regarde comment on fait marcher ensemble la main et le pied, en demandant au sujet de synchroniser ce mouvement du pied et de la main, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ce genre de questions. J'avais tout simplement besoin d'un chronoscope, d'un oscillographe cathodique qui me permettait de mesurer les différences d'écart de temps entre les réactions de la main et du pied, et puis on a un petit peu compliqué ça aussi par l'électromyographie pour voir ce qui se passait. Donc ça a été mon premier travail, la synchronisation main-pied, et qui a eu des retombées alors du côté du laboratoire d'Henri Piron et de l'Institut de psychologie. Alors qu'est-ce que c'était que cette synchronisation main-pied? Pourquoi elle ne veut plus partir là? Alors, il faut savoir que Fessard, au tout début de sa carrière, dans les années 25 ou autres, avait été aide technique, si je puis dire, dans le laboratoire de l'AI, dans l'art d'ergonomie, et j'ai retrouvé dans ce numéro de la Nature de 1925 cette figure de Fessard qui est en train de régler les cylindres enfumés du type Marais pour mesurer les réactions du pied droit, du pied gauche, de la main droite, de la main gauche des conducteurs de tramway. Voilà un petit type de travaux qu'il a fait au départ. Or, c'est, je crois, ce type de recherche qui lui a fait poser la question, et si on regardait main-pied, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez le genre de questions absolument triviales qu'il a l'air de poser, et dont vous allez voir qu'elle débouche effectivement sur des questions d'une importance essentielle. Parce que qu'est-ce qui se passe en effet? Au début, on m'avait donné des contacteurs pour faire un relèvement du talon en même temps qu'un relèvement de l'index, et on s'aperçoit, c'est ce qui avait été troublant au départ, quand il m'avait demandé demander au sujet intentionnellement de faire un mouvement synchrone, c'est-à-dire ce qui se passe à gauche. Or, on constate que chez tous les sujets, c'est le pied qui arrive avant la main. Bizarre. Alors, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je vais regarder ce qui se passe si, au lieu de lui demander de faire self-pace, qu'est-ce qui se passe si je lui demande de réagir aussi rapidement que possible à un mouvement synchrone. Alors là, clairement, c'est la main qui arrive avant le pied. Voilà une belle distinction entre du self-pace et du trigger. Et alors, Fessard, ravi de ces résultats, me disant, voilà le Bewegungsentwurf de Warholder. Hein. Parce qu'ici, il faut faire un plan, un projet de synchronisation dans le mouvement intentionnel et qui exige que ce soit les réinférences qui soient synchrones pour répondre à l'image de but qu'on s'est fixée. Autrement dit, il était très attiré, disons, par la notion des conséquences sensorielles de l'action hein, qui devenait le moteur d'organisation des programmes d'action. Alors qu'on ne pouvait pas le mettre en route dans un mouvement réactionnel, on n'a d'ailleurs pas encore contrôlé cet aspect des choses, dans un mouvement de réponse rapide à un signal, ou bien on n'a pas le temps de construire l'image de but, hein, parce qu'il lui faut du temps. Hein. Et à ce moment-là, la main arrive avant le pied, c'est déclenché au niveau du cortex moteur de manière synchrone. Il faut bien dire que dans ces deux situations, le sujet perçoit que c'est synchrone. Les délais sont tellement faibles qu'au niveau de la perception et du contrôle qu'il peut faire, au niveau perceptif de ces choses, il n'est pas capable, lui, de juger que c'est asynchrone dans les deux cas. Hein. Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer. Donc, c'est manifestement quelque chose qui se passe au niveau d'un non-contrôle cognitif, si je puis dire, d'un contrôle inconscient, et qui réalise dans le système nerveux des régulations de ce type qui anticipent les conséquences sensorielles de l'action. Il faudrait comprendre sur quelle base hein, et pourquoi. Alors, les délais. Alors, voilà ce que l'on a chez les sujets normaux. Vous avez là sur le. J'ai mon petit truc là, oui, qui peut me permettre. De... Voilà. Alors sur cette courbe-là, c'est le mouvement qui était enregistré, hein, c'est le déclenchement du contact. Et sur cette courbe-là, c'est la première caractéristique d'EMG dans les muscles solaires d'une part et dans les muscles de l'extension de l'index. Hein. Alors vous voyez ici, c'est en millisecondes. Hein. Pratiquement, le message nerveux arrive à moins 10 secondes avant la main dans la condition dite projective. Et par contre, la main arrivera à environ 10-15 millisecondes avant le pied dans la situation dite réactive. Voilà un peu les délais. Alors, ça va nous poser une question, parce que quand on a fait les potentiels évoqués du pied pour savoir quel délai puis aller pour monter au cortex, c'est plus court. Ce qui nous a immédiatement attiré l'attention sur est-ce que c'est pas au niveau du cervelet que se passeraient les choses. Et effectivement, comme vous allez le voir. Alors voilà les premières publications que j'ai faites en 48 avec Fessard sur la recherche de la simultanéité dans l'exécution des mouvements volontaires. Ce qui m'a amené au premier gros article que j'ai pu faire dans l'année psychologique sur les données psychophysiologiques relatives au déclenchement de la commande motrice. En gros, c'est une problématique qui aujourd'hui devient très ouverte dans les recherches modernes pour dire on a deux manières de gérer la motricité. Une gestion prédictive, celle qui est liée à l'intentionnalité, à la construction d'une image de but, à une référence sur les conséquences sensorielles attendues de l'action, et une gestion réactive, on répond au signal avec les moyens qui sont en place et de cette manière. La commande intentionnelle de deux mouvements segmentaires synchrones est planifiée, organisée et déclenchée en fonction d'une anticipation des conséquences sensorielles des actions projetées. La réaction simultanée de deux mouvements segmentaires à un signal externe résulte d'un déclenchement synchrone des commandes centrales au niveau du cortex moteur. Ça répond tout à fait à ce que disait Fessard, une approche comportementale simple peut poser une question fondamentale au fonctionnement du système nerveux. Et c'est un peu tout ce qui va inspirer ce qui va suivre, parce que ça a toujours été son idée. Bon, là, je passe rapidement, il faudrait aussi que je fasse attention au temps. C'est la disons, les explications que nous avons pu avoir sur cette malade désafférentée d'Yves Lamarck, sur lequel je travaille encore au Québec, et qui n'a plus de sensibilité proprioceptive dans tout le corps. Or, si on lui fait faire cette manipulation, c'est toujours la main qui arrive avant le pied. Autrement dit, ces conséquences sensorielles attendues de l'action viennent d'un traitement préalable, d'un état prévisible, des retours proprioceptifs. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment un problème qu'on n'a pas élucidé du tout dans le cadre du fonctionnement nerveux. Et alors, également, dans la suite, ça c'est des choses de beaucoup plus récentes, si je puis dire, mais ça a donné lieu à toute une nouvelle interprétation du fonctionnement du cortex moteur, hein, où l'air supplémentaire, l'air 6, est impliqué dans le projectif, avec surtout les boucles striaires qui le modulent, alors que tout ce qui est réactif est au contraire impliqué dans l'air 6 inférieur avec une participation massive des boucles cérébelleuses, avec le rôle que peuvent jouer, qu'on connaît aujourd'hui, des aires 7 associatives où le visuel va effectivement influencer toutes ces zones où on vient de découvrir les neurones miroirs, le rôle du prémoteur qui se met en route lorsqu'on regarde un mouvement exécuté, etc. Alors que tout ce qui est proprioceptif, au contraire, va influencer par l'air 5 toute cette partie supérieure. Ça, c'est des choses qui ont été reprises aux États-Unis par Gary Goldberg et qui a fait d'ailleurs une très belle revue dans le BBS. Et qui a également donné lieu à des travaux de Berlucchi à Milan. Et je suis allé aussi travailler au Max Planck à Munich sur ces problèmes-là. Et alors, dernière chose que je signale ici, parce que nous avons fait tout récemment, puisque c'est 2004, un contrôle de ce qu'était la différence en neuroimagerie entre le self-initiate et l'external trigger. Et nous avons trouvé très clairement, dans le cervelet, une zone qui ne fonctionne que lorsque c'est self-triggered, c'est self-initiate. Donc il y a vraiment, on retient l'idée que le comparateur en question entre l'image de but et ce qu'on veut faire est probablement traité au niveau cérébelleux. Alors voilà pour la synchronisation main-pied, je vais être très 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 rapide pour dire les retombées qu'il y a eu du côté des équipes d'Henri Pierron à l'Institut de psychologie. C'est des choses qui ont été faites en particulier sur les repères sensoriels qui permettent de contrôler les mouvements périodiques. C'était des recherches que faisait Paul Fraisse à l'époque et qui ont eu un assez gros retentissement dans ce domaine parce que lorsqu'on veut synchroniser un mouvement du doigt ou du pied avec un son, par exemple, il est évident que le mouvement du pied va arriver avant que le son se produise pour avoir le temps d'envoyer la référence, la réafférence du pied, de façon à ce qu'elle arrive synchrone avec le son. Donc en changeant les conditions, que ce soit visuel, que ce soit sonore, et que ce soit proprioceptif ou que ce soit cutané, on peut faire toute une étude des vitesses de conduction qui amènent finalement ces conditions de synchronisation des repères sensoriels. Alors là, ça serait bien long de s'étendre, mais Fessard m'a engagé également dans ses études d'ergonomie avec Suzanne Paco, qui était une collaboratrice de Bonnardel, je crois, à Brigue-Lussac, et qui travaillait avec la SNCF et les 200 sujets hommes, etc. Enfin, je passe très vite. Et pour dire le type de problème que ça pose aussi, qui est très intéressant, c'est que si on mesure les temps de réaction en faisant deux mouvements de ce genre, c'est là où ils sont le plus courts. Mais si vous faites les temps de réaction lorsque ça va dans le même sens, il augmente. Donc c'est plus long à préparer. D'autre part, si vous faites un mouvement dans ce plan avec un mouvement dans ce plan, alors les temps de réaction augmentent considérablement. Ça veut dire qu'il y a là aussi un problème d'organisation du mouvement dans les différents plans de l'espace, enfin le genre de problème qu'il faut poser au fonctionnement nerveux. Je passe tout de suite maintenant à l'EMG des coordinations synergiques et nous allons passer sur l'autre versant puisque Fessard avait déjà commencé avec Auguste Tournet cette étude des synergies, de la fameuse synergie du chêne de Boulogne. Est-ce que j'ai fait un petit truc? Ah, il est là, pardon. Oui, de la fameuse synergie du chêne de Boulogne, où lorsque l'on ferme le poing, par exemple, il y a une stabilisation du poignet automatique qui se fait par les muscles radiaux. Or, l'hypothèse du chêne de Boulogne, ces synergies étaient impératives. Câblées dans le système nerveux, elles étaient là et marchaient continuellement d'une manière automatique. Mais on n'avait pas d'éléments électromyographiques ou autres pour juger de la validité d'une telle hypothèse. Donc, je montre là les gens qui ont été intéressés par la suite. Là, on retombe dans le monde médical, hein, avec Lefebvre, Grossior et Tardieu, qui ont utilisé les recherches que nous faisions d'électromyographie, ce qui m'a donné aussi à l'Institut Marais une tâche qui a été lourde et chronophage pour moi, c'est que je suis devenu le formateur de tous les électromyographistes d'Europe qui venaient à l'Institut Marais pour apprendre à faire des électrodes coaxiales et apprendre à recueillir les électromyogrammes et débarrasser des parasites électriques, etc. Donc j'ai passé beaucoup de temps à ça, à l'Institut Marais. Alors, bon, je ne vais pas non plus insister dans le détail. Voilà les deux muscles radiaux qui vont stabiliser le poignet. Et puis, il y a ici les fléchisseurs du pouce, dans la réaction non seulement de fermeture des doigts, mais de pouce index. On a cette stabilisation des choses. Alors, ce qu'avaient vu Fessard et Tournai, dès 48, dès 45 même, voilà leurs premiers enregistrements, un peu ceux que j'ai vus crépiter dans la salle où ils m'avaient fait venir la première fois. Bon. C'est que quand on regarde les radios par rapport à l'exécution du mouvement pouce index, ben, il y a une synchronie finalement, il n'y a pas de délai, ce n'est pas quelque chose qui est déclenché de manière réflexe. La synergie est déclenchée en même temps dans les radios et dans les fléchisseurs du doigt. Hein. Donc il donnait cette idée que c'était effectivement, comme Duchesne de Boulogne le pensait, quelque chose d'inscrit dans le système et impératif. Ceci pour un mouvement brusque, comme pour un mouvement lent, c'était toujours un départ synchrone du radio et du fléchisseur de joie. Alors ensuite, ça a été vraiment le grand thème qui a été le mien, avec l'arrivée au laboratoire de Robert Livingston, qui a d'ailleurs donné une grande publicité à ses travaux aux États-Unis, qui ensuite, vous allez le voir, m'a fait collaborer à ce handbook de physiologie, et qui a évidemment beaucoup intéressé Fessard, et qui là aussi va poser un problème fondamental, qui est le suivant. Voilà. Si je fais cette réponse des radios, voilà le mouvement de flexion de l'index et la réponse des radios. Si je stabilise le poignet par un plâtre, dans ce cas-là, même si le mouvement pouce index est grand, la synergie a disparu. Dès le premier essai, je retire le plâtre, ça revient. Donc il y a un problème. Et effectivement, la synergie n'est pas impérative, comme le disait Duchesne de Boulogne. En fait, elle dépend d'une interrogation préalable de l'état du système, ou tout au moins, encore une fois, d'une prévision des conséquences sensorielles de ce qu'on peut attendre, vu. Il faut donc qu'il y ait une connaissance par le système de l'état dans lequel il est, et c'est assez extraordinaire comme question posée, elle est fondamentale, et on n'a pas encore de réponse non plus de la neurophysiologie à des questions aussi banales, on peut dire, et aussi simples. Mais voilà, ça c'est typiquement le type de problème qu'abordait Fessard avec moi. Alors voilà ce travail. Ah ben non, j'en viens en arrière là, excusez-moi. Bon, alors ça, c'est ce qu'on a refait par la suite avec Tournai sur ces synergies. On a fait des analyses comme Tournai s'intéressait avec son laboratoire d'enfants paralysés. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie, mes 10 ans de séjour à l'Institut Marais. Tous les jeudis, j'allais avec Auguste Tournai qui venait me chercher au laboratoire. On emmenait les instruments et on faisait des recherches tous les jeudis. Et ça a été pour moi, je dois dire, un des moments merveilleux de ma carrière de chercheur. Tournai était un homme délicieux, d'une culture extraordinaire, en plus d'un humour pétillant toujours. Je veux dire, si j'avais eu un magnétophone pour enregistrer à l'époque tout ce qu'il m'a raconté sur la neurologie française, quelle source inépuisable de satisfaction. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Alors, application à la médecine aussi. parce que ça, c'était aussi une chose extrêmement intéressante qu'on a fait avec Lefebvre, et ça a été la thèse de médecine de l'ordre, d'ailleurs. Dans les paralysies radiales traumatiques, hein, où les radios sont donc inactifs, donc le poignet est baisse. Donc, si vous faites, c'est difficile de faire la pince-pouce index si on n'a pas stabilisé le poignet. Et on a constaté que si on transférait le fléchisseur de l'index sur le poignet, pratiquement dès les premiers essais, le fléchisseur prend une fonction de stabilisation du poignet. Quel problème du point de vue de la plasticité du système. Et on revient à poser la question, il y a dans l'organisation d'un mouvement volontaire une espèce de préconnaissance, finalement, de l'état de ce qui va arriver si je m'assume ce but. Alors voilà un des grands problèmes qui a fasciné Fessard. Bon, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, grâce à la publicité qu'a donnée Livingstone à tout ça, que j'ai eu l'occasion d'être appelé à donner dans ce handbook de physiologie qui a fait date aussi, un chapitre sur le patterning of skin movement, qui a eu, je dois dire, beaucoup plus de succès en Amérique qu'en France, où je crois qu'il a été à peu près inconnu, mais où vraiment on a pu développer toute cette... J'étais très très content de voir que Fessard m'avait fait ce commentaire, il m'a aidé bien sûr dans la rédaction, dans l'anglais, etc. Et puis quand tout ça a été prêt, il m'a dit, voyez Bayard, c'est presque comme si je l'avais écrit. C'était magnifique. Bon, alors, troisième étape. Alors ça va encore être une étape assez brûlante. César était persuadé que dans cette électromyographie, l'intérêt était d'avoir l'analyse chronologique de l'entrée en activité des muscles d'une manière assez précise. Je dispose de combien de temps ? Bon, merci. Bon, donc il avait fait procurer à Auguste Tournet, par le biais de je ne sais quelle fondation, un polygraphe Hofner, qui était à ce moment-là le top de la technicité des électroencéphalogrammes, parce que les bandes passantes des plumes permettaient d'aller pratiquement du continu à des fréquences élevées. Et il réalisait ça par un système de chopper, je ne sais plus, qui permettait pratiquement d'avoir des enregistrements continus. Ce qui nous a donné l'occasion de travailler en particulier avec Vincent Bloch et Jean Banco à l'aide de ces instruments pour les études dont je vais vous parler. Et bien sûr, chez Tournet, chez ses enfants paralysés, on a fait des tas de choses sur la polygraphie. Bon, voilà par exemple avec ce polygraphe Hofner, hein, un des premiers enregistrements qui figure d'ailleurs dans le handbook dont je vous ai parlé, vous faites exécuter au sujet la lettre D, hein, et vous avez l'ensemble des muscles du pouce, de l'index, etc., qui contribuent à cette activité, et vous voyez les étapes de franchissement des diverses parties de la courbe, et la manière dont cette configuration d'entrée en activité des différents muscles permet de voir combien ce que Fessard a appelé l'horlogerie interne du système nerveux dispose de moyens de travail assez extraordinaires. Hein. Alors là, je reviens sur l'EEG, parce que on en a parlé, je n'y insiste pas, sur les premières recherches d'électroencéphalogrammes chez l'homme. Et ça, je crois savoir, et ça serait intéressant de le contrôler, parce que je vais vous en parler tout à l'heure, si presque un moment. L'EEG, il y a eu une controverse entre Sherrington et Hansberger, étant donné que Sherrington n'avait aucune confiance entre ce que se faisait en Allemagne, ce n'était pas intéressant, c'était pas fiable. Et par contre, Adrian, c'est lui qui a finalement fait des recherches et les Anglais ont attribué à Adrian la découverte de l'EEG. Et Adrian, très très honnêtement, a dit, c'est pas moi, c'est Hansberger. Alors que Sherrington disait, Hansberger, laissons ça à la poubelle. Hein. Donc c'est très intéressant, parce que je pense que ceci, pourquoi je posais la question de savoir tant il avait été chez Adrian Fessard, 37, eh bien, je pense que les recherches qu'il a fait ensuite par Duruppé, ça a dû être influencé par ses contacts avec Adrian à l'époque, hein, qui était intéressé par les jets et les tomographies allemandes. Hein. Bon, je passe sur les différentes contributions qui ont été faites sur les jets à l'Institut Marin. Je vais vous montrer quelques graphiques avec Bloch qui faisait à ce moment-là sa thèse sur une psychophysiologie des émotions, et on sait que les psychologues étaient très attirés par ces réponses électrodermales. La résistance de la peau change en fonction des émotions, hein, et c'est un excellent indicateur finalement de l'état d'activation du sujet dans les états émotionnels. Hein. Et puis ensuite ce qu'on a fait avec Banco sur cette fameuse pointe vertex, je vous en parle tout de suite. Une petite chose rapide là qu'on a fait avec Tournet sur les lectures électromyographiques des mouvements volontaires et involontaires du cou, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y avait un cas de torticolis spasmodique qui avait été intéressé, donc on a pris la polygraphie de Loeffner pour pouvoir faire cette étude dans laquelle je ne vais pas insister sur les détails, mais qui nous apprend comment fonctionne cette musculature de maintien de la tête dans les conditions normales pour les mouvements qu'on lui fait faire et dans les conditions d'un torticolis spasmodique. Voilà ce que j'ai fait avec Bloch, là, on a fait l'Institut Marais, ces enregistrements, avec Loeffner, enregistrer ses réponses électrodermales. Si vous mettez des électrodes sur le front, sur la main, sur la cuisse, on s'aperçoit que cette vague d'influences sympathiques qui vont déclencher ces effets de résistance de la peau s'étale avec un certain temps. C'était tout à fait intéressant d'avoir, on n'avait jamais connu finalement cette vitesse de transmission des choses. Et chose intéressante aussi, si on prend des vitesses beaucoup plus lentes d'enregistrement, on s'aperçoit que si on fait un enregistrement sur les deux mains, par exemple, c'est rigoureusement parallèle partout. Hein. C'est vraiment tout le corps qui est envahi par ces décharges qui provoquent ces réactions émotionnelles. Hein. Donc ça, c'est quand on discute avec le sujet. Et puis ici, c'est le sujet qui est au repos. Donc il n'a pas de stimulation émotionnelle, et ici, ça se traduit très bien. C'est pourquoi c'est un test que les psychologues ont adoré, bien entendu, comme moyen d'étude de l'activation du système. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Banco. Alors, c'est cette fameuse découverte de la pointe vertex, et qui traduit, si on peut dire, nous, on l'attribuait à un sursaut, l'équivalent du sursaut moteur dans le domaine cortical. La surprise, toc, une pointe vertex. Or, et puis il fallait le distinguer bien sûr de ce qu'était le clignement palpébral, donc voilà, parce qu'on a aussi des clignements palpébraux sur ce, donc tout ceci a été bien différencié dans les études. Banco et Bloch étaient très méticuleux dans tout ce qu'on faisait à ce moment-là, et on a ici cette distinction de ce qui est palpébral sûrement et de ce qui est la pointe vertex. Simplement pour la petite histoire, il se trouve qu'à ce même moment à Marseille, Gasto découvrait aussi la pointe vertex, ce qui a créé un petit conflit de priorité que Fessard a arbitré en faisant venir Gasto à l'Institut Marin. Et puis on a fini par tomber d'accord pour publier en même temps dans le journal l'électroencéphalographie, le travail de Gasto et le nôtre. Mais ça, c'est aussi un problème très intéressant, cette pointe vertex. Bon, j'en viens maintenant à ce qui va être la transition avec ce qui a été mon sujet de thèse, c'est le phénomène de Kölschdamm. Alors là encore, quelle trivialité de demander à un sujet le phénomène de Kölschdamm, qu'est-ce que c'est ? C'est bien connu, puisqu'on le fait faire aux enfants, hein, il suffit d'appuyer son bras contre le mur pendant 15 secondes, et puis au bout des 15 secondes, le bras il s'en va tout seul, et il monte. C'est un mouvement totalement involontaire, mais quelle est son origine ? On n'a pas répondu à cette question encore d'une manière claire. Bon, je vous passe sur les détails, ça me prendrait trop de temps. Mais voilà, ceci, si c'est le bras droit, ceci, c'est le bras gauche. Mais si je fais le bras droit et le bras gauche en même temps, ça perçoit qu'ils ne montent pas au même niveau. Donc, il y a une interaction, quelque part, au niveau spinal, probablement, entre ces deux mouvements involontaires. Alors là, c'est la même chose. On fait les deux en même temps. Mais au lieu de laisser partir, un bras on le bloque, on ne le fait pas partir, eh bien l'autre il s'en va gentiment faire son parcours sans la contamination de l'autre. C'est d'une simplicité biblique si je puis dire, mais c'est quand même des bonnes questions. Et alors, bon, je passe là-dessus, mais alors, ce qui était intéressant, c'est que ce phénomène de Goldstein, Pessard était persuadé, c'était le moment où émergeaient dans la littérature tous les travaux sur les fuseaux, tous les travaux sur la fusibotricité, la boucle gamma, etc. Il me dit, il y a du fuseau là-dessous. Il faut aller voir ce qui se passe. Bon, alors moi, je me suis mis à chercher dans la littérature des fuseaux neuromusculaires, celle qui commençait, avec toutes les... Déjà, vous voyez, en 52, je publiais déjà des tracés de ce genre. Et alors, le déclic, il est venu du fait que Fessard avait dans son bureau une masse de tirages à part venant d'un peu partout. Et il me donnait naturellement librement accès à tout ça. Puis j'ai trouvé là-dedans les tirages à part de Paul Hoffmann, cet Allemand qui, effectivement, avait étudié un réflexe qu'on appelle le réflexe Hoffmann et qui est devenu aujourd'hui le réflexe H. Et je suis parti, d'ailleurs, timidement d'essayer mes premiers essais. Et quand j'ai réussi à avoir ce réflexe, j'étais ravi toujours des capacités d'étonnement et d'enthousiasme de Fessard. Quand il y avait quelque chose de nouveau, oh, il était absolument vibrant d'enthousiasme que j'ai pu avoir un réflexe de Hoffmann, parce qu'il voyait tout de suite l'intérêt. On va avoir chez l'homme un réflexe monosynaptique et on va pouvoir comparer ça avec tout ce qui se fait sur l'animal, chez le chat, par l'œil et autres, et qu'on allait enfin pouvoir utiliser le réflexe monosynaptique chez l'homme, non pas chez un animal anesthésié, décérébré ou tout ce que l'on veut, mais chez un organisme complet, et voir ce qui se passe dans les diverses manifestations du mouvement. Donc je suis parti dans ce problème du réflexe de Hoffmann. Bon, là encore, j'ai quand même perdu beaucoup de temps parce que je suis devenu l'initiateur de toute la médecine de parisienne ou autre, et autres, Belgique, Italie, on venait tous apprendre cette technique, hein, du marais. Et en particulier en France, ça a été en particulier nos relations avec Pierrot de Céligny qui a donné beaucoup d'extension à cette technique en neurologie, François Hisch à Strasbourg qui a aussi également donné beaucoup d'extension, et un travail un petit peu particulier qu'on a fait avec Dejour et Maurice Hugon sur les effets ventilatoires que déclenche la proprioception, donc qui était aussi un problème assez intéressant. De même, ce réflexe chasse, il a été à l'origine d'abord de la thèse d'Hugon qui était faite à l'Institut Marais aussi, et que j'ai dirigé, et également au premier contact qu'on a eu avec les sportifs. Parce qu'il y avait un élève de Pierron, qui était hier bord, qui travaillait à l'Institut des sports de Châtenay, et Maurice Hugon a commencé des travaux avec eux, et qui se sont étendus à Marseille dans des conditions, je vais passer un peu plus vite. Bon, Hoffmann, j'ai eu récemment un contact très intéressant avec un élève de Hoffmann, c'est Lucking, qui vient d'écrire une revue sur Remembering Paul Hoffmann pour le Club Hoffmann, parce qu'il existe maintenant en Europe un Club Hoffmann, et ça c'est pour le meeting d'Aix-la-Chapelle prévu en septembre 2005, c'était déjà fait, et il a fait toute une revue de la carrière de Hoffmann, qui est extrêmement intéressant. Alors, je vais très très rapidement. En fait, Hoffmann a découvert un réflexe monosynaptique par simulation électrique du nerf, avec réponse dans le solaire, et qui avait toutes les caractéristiques de stabilité de latence, etc., d'un réflexe monosynaptique, et qu'il a appelé l'Eigen réflexe. Là encore, Sherrington a été absolument, il a balayé tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça a été vraiment un conflit assez extraordinaire que raconte très bien Luke Hint. Et c'est Adrian qui a dit, mais pardon, ça a quelque chose à voir. À nouveau, les relations Fessard-Adrian, il y avait une espèce de consonance, disons, entre ces deux, qui ont fait qu'il m'a laissé partir sur ce réflexe de Hoffmann, que effectivement, qui a fait le sujet de ma thèse, très vite, parce qu'on a appliqué ça avec Tournai. En essayant de comparer en particulier les hémiplégiques et les maladies de Litt chez les enfants paralysés. Or, c'est très intéressant parce que vous savez que dans le réflexe de Hoffmann, on fait une stimulation électrique qui commence à déclencher d'une manière sensorielle, donc monosynaptiquement, la réponse du solaire. Et puis, en arrivant à une certaine intensité, on commence à stimuler les fibres motrices et on a l'apparition d'une réponse M, comme on dit, qui, elle, va antidromiquement faire baisser, finalement, le réflexe de Hoffmann. Or, ça donne des courbes de recrutement. Hein. Alors, ça, c'est les courbes de recrutement des sujets normaux. senti ici, c'est la 2, hein, là, c'est la courbe de recrutement des sujets normaux. Et vous avez chez les hémiplégiques, voilà, on a ceci. Et chez la maladie dite, on a ce type de courbe. Ce qui est quand même intéressant aussi sur l'état spinal de ces malades. Et bon, je passe sur le détail, mais ceci nous a donné des résultats intéressants dans la pratique qui intéressait Tournet de son côté. Là encore, une chose assez extraordinaire, si j'avais le temps de vous l'expliquer, c'est ma collaboration avec ce vieux collaborateur de Marais, qui était Noguès, qui était un mécanicien hors pair, et qui m'a fait un instrument extraordinaire de percussion des tendons, qui à la milliseconde me permet de changer le rythme, d'établir des rythmes, de faire des courbes d'excitabilité par double choc, etc. Ça m'a donné une ressource extraordinaire pour comparer le réflexe déclenché électriquement et le réflexe déclenché mécaniquement. Et de voir qu'en effet, on peut avoir des effets qui sont purement fusimoteurs, hein, et qui n'ont pas encore exercé leur effet sur le motoneurone, hein, qui sont donc latents et qui, pour s'exprimer, demandent l'étirement du muscle. Hein. Donc c'était aussi une ouverture tout à fait intéressante qui a ensuite eu beaucoup de répercussions. Ça a été le sujet de ma thèse. Et en particulier, en psychologie, on s'est aperçu, quand vous faites des réflexes tendineux en divers points du corps, on s'aperçoit qu'ils fluctuent tous dans des périodes de 15 secondes, 10 secondes, en même temps. Autrement dit, il y a une excitabilité générale qui s'exerce par l'intermédiaire de la boucle gamma. On sait que les motoneurones gamma ont des seuils d'excitation plus bas que les motoneurones alpha, et on peut penser qu'il y a en permanence des effets qui modulent de cette manière l'ensemble de la motricité. Et c'est général, aussi général que ce que vous montrez tout à l'heure dans les réponses électrodermales. Donc c'est une particulier, je crois, de la fusimotricité d'exercer cette adaptation, disons, du niveau d'activité en fonction de l'état du sujet, de son activation, etc. Bon, je passe vite puisque ça a eu beaucoup de répercussions dans divers domaines, et en particulier ça a été curieusement, bien que Magladéry aux États-Unis ait aussi redécouvert le réflexe de Hoffmann à peu près en même temps que moi, c'est d'ailleurs de concert qu'on a décidé de l'appeler le réflexe H, maintenant qu'il est dans la littérature. Personne ne sait d'ailleurs aujourd'hui ce que signifie H, mais enfin, peu importe. Mais ceci a entraîné mon invitation par Lieberson. Il était à ce moment-là Boston, je crois. Or, Lieberson était le pape de l'électrobiographie américaine. Or, avec lui, on a réintroduit le réflexe de Hoffmann dans la neurologie américaine. Bon, je vais terminer là-dessus, puisque tout ce qui vient d'être fait, moi j'ai quitté l'Institut en 1957, et nous savons que tout ce qui a été fait là s'est prolongé ensuite dans l'Institut de neurophysiologie et psychologie de Marseille, et psychophysiologie. Alors c'est une question que je posais tout à l'heure à Mackenzie. Il y a une question qui est à vous, que je crois qu'il faut élucider. C'est que l'Institut Marais était en pleine expansion. Fessard, avec beaucoup de difficultés, maintenait le type de recherche que je vous ai signalé, étant donné que ça n'allait pas dans le prestige de tout ce qui se faisait sur l'aplysie et les choses de ce genre. Or, à ce moment-là, avec Laugier et Pierron, ils ont fait inscrire au troisième plan de recherche du CNRS un institut de psychophysiologie. J'aimerais bien avoir les documents qui justifient. Alors, est-ce que c'était pour compléter ce qui se faisait à l'Institut Barret dans la microphysiologie? En tout cas, Fessard a œuvré, à mon avis, pour que cet institut se fasse à Marseille, où on a réalisé effectivement ce qu'il souhaitait dans son leçon inaugurale, une neurophysiologie générale qui fait le pont entre l'analyse des mécanismes élémentaires et leur finalité fonctionnelle au niveau comportemental. Je vais m'arrêter là-dessus.
Merci beaucoup.
Alors, à mon avis, ça a été une stratégique.
Oui.
Ça a été stratégique, la présence de Morin dans cette direction. D'ailleurs, moi, j'étais jeune maître de conférence arrivé là. Et Morin a joué un rôle très neutre dans l'Institut de l'Officieux. Il n'y a jamais eu une équipe en place dans l'Institut. L'équipe médicale qui était chez Gaston Sinaké, qui a été représentée dans l'Institut au départ, avec Arvani Taki, il y avait Valentine Bonnet, qui venait de chez Bremer. Enfin, ça a été le départ. Or, Morin a rendu un service considérable. On sait que c'est très difficile dans ces ensembles où on met des disciplines différentes de gens qui, a priori, ne savent pas très bien comment se parler. C'est Morin qui a réalisé l'espèce d'unification au point de vue des réunions de comité, etc. Il avait cette référence, ce calme.
Et Morin, pour ceux qui ne le sauraient pas, était un physiologiste marseillais de grand renom et très handicapé par
les conséquences de sa poliomyélite,
mais très respecté et qui était écouté.
Ah, tout à fait. Et je dois dire que ce qu'on a pu réaliser par la suite à l'Institut Marais vient en grande partie du rôle qu'a joué le doyen Morin dans la mise en place des institutions d'Institut.
Oui, c'est un élève de Hermann. Quelles sont les questions que vous désirez poser? Je voudrais faire une toute petite rectification. Nous avons parlé à plusieurs reprises des gens qui étaient allés aux États-Unis. Ce n'est ni l'INH, ni le CNRS, mais c'est un groupe d'hommes fort intelligents qui ont persuadé le ministère des Affaires étrangères en 1945. Ça s'appelait la mission des Affaires étrangères. On doit à un groupe de 2 ou 3 médecins, du Bugnard, cette décision d'envoyer les jeunes. Mais c'est indépendant des 2 INH et CNRS.
Si je peux encore juste peut-être... Non, peut-être on est au bout de notre temps. Hein. Mais je montre qu'ici, en dehors de l'Institut de neurophysiologie, il y a eu à Marseille, comme retombée dans les facultés des sciences, dans l'Institut de biométrie humaine, en faculté de médecine, en faculté des sciences du sport, on peut dire que Marseille est devenue, pour les recherches en sport, le laboratoire de France et même peut-être étranger est le plus en pointe. Et c'est actuellement que à Marseille, je vais vous montrer ça. Ah, ben là, ça c'est très beau aussi. La phrase que donnait Fessard dans cette commentaire de son discours inaugural. C'est ligne droite qui balaye l'espace, c'est une chose de marée, bien sûr. Ces lignes droites qui balayent l'espace sont habillées par des muscles. Ceux-ci sont commandés par des nerfs dont les centres obéissent aux règles stéréotypées de la réflexologie élémentaire. Souvent assouplis par les corrections qui apportent les nombreux circuits rétroactifs, enfin dominant le tout, les organisations nerveuses fonctionnelles, plus ou moins durables, renfermant l'information nécessaire pour coordonner les séquences motrices en fonction du but à atteindre, autrement dit des programmes. Et il concluait, c'est alors que le neurophysiologiste rencontre le psychophysiologiste, le psychologue, l'éthologiste, puisse-t-il se former un langage commun qui leur permette de mieux en mieux se comprendre.
Oui, je voudrais juste poser une question sur les synergies.
Oui.
Donc ces travaux sont aussi des synergies inspirées par les travaux de Waldgolder, etc., qui aboutissent à ce que l'activité musculaire est conditionnée par l'état mécanique du système et une évaluation de cet état mécanique. Alors comment est-ce que Fessard concevait cette évaluation? Est-ce qu'il y avait pour lui une sorte de modèle interne ou représentation interne, ou bien est-ce que c'était une approche systémique, ou est-ce qu'il avait une théorie dans ce domaine-là?
Je pense qu'il n'a jamais eu la solution, et je pense que je ne l'ai pas pour non plus aujourd'hui, cette solution. Où est cette image de but? Quelle est son essence? Où se construit cette espèce de prévision des conséquences anticipées de l'action? Ça demande un mécanisme assez extraordinaire. Hein. Et je peux vous dire que dans la synergie dont je vous parlais tout à l'heure, où vous avez mobilisé le poignet, à ce moment-là, elle ne fonctionne plus. Nous avons fait ce travail avec notre malade des afférentés. elle a toujours la synergie que le bras soit immobilisé ou non. Autrement dit, encore une fois, c'est un problème de retour proprioceptif qui joue proprement.
Une exception quand même.
Non, non, c'est pour après.
Merci.
Non, tu me lèves ça. Ce chef.
Alors, nous allons pouvoir avoir une courte pause, et si vous le voulez, il y aura une table ronde ensuite qui commencera par un petit débat sur l'EEG, l'Institut Marais, par un petit exposé que présentera Céline Chérissy.